J'aime bien les liens, moi. J'aime beaucoup les liens. Il y a plein de liens dans tout ce qui a été dit. Avec ce que je vais dire, bien sûr, parle de l'Évangile. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. On a parlé de la maison. Janet en a parlé, de la maison de Dieu. Et on sait que l'habitation de Dieu en esprit, c'est qui? C'est le chrétien. Chaque chrétien peut être en communion avec lui. C'est-à-dire que Dieu est en lui, dans le chrétien, dans la chrétienne. Et puis, je me dis une chose, voilà, Jésus tape à ma porte. Il a tapé à ma porte, je lui ai ouvert. Ça a dû se passer aussi pour beaucoup d'entre vous. Hein? Et puis, il ouvre la porte et puis il rentre. Et c'est comme si la lumière entrait dans une caverne ou un bouge. Je suis fier de ma personne, n'est-ce pas? Mais le Seigneur vient ouvrir la porte parce que je lui ai autorisé à entrer. Et puis il entre. Et puis il est discret, il est gentil, il dit rien. Il y a des araignées partout, il y a des cafards par là, il y a des limaces par là. Et tout est noir, sale. Et alors, je me dis, mais... Seigneur, viens t'asseoir, mais la chaise est sale, tout est pas très propre. Et il ne dit rien, il nous met simplement dans la lumière, et cette lumière nous amène à dire, mais attends Seigneur, attends, je vais juste prendre la lavette là pour nettoyer, pour que tu puisses mettre ton séant dessus. Et oui, mais regarde pas les araignées et tout ça, je vais m'en occuper. Et petit à petit... Si la lumière de Dieu entre dans mon cœur, puis petit à petit, la maison va devenir propre. Hein? Je dis ça parce que je n'avais pas envie de le dire, mais comme Janet en a parlé, et je me suis dit, tiens, ce serait une bonne idée pour parler dans le lien qui nous unit, dans tout ce qui a été dit par Michael, par Pascal, par Emmanuel, par Emmanuel aussi, enfin voilà. Alors, voilà. J'aime bien faire les liens, moi, et vous aussi. Et j'aime bien faire des liens dans l'Évangile entre des passages qui ont l'air de ne pas avoir de lien. Ça arrive. Tout à l'heure, Pascal a parlé de « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le Seigneur. » N'est-ce pas ? Et puis, vous savez comment ça marche ? Soumettez-vous les uns aux autres, et ça va dans le sens... Christophe a parlé de la joie que l'on voit dans Ésaïe. On voit que c'est la joie pour nous. Dans des situations difficiles, le chrétien reste un peu dans la joie. Bon, quelquefois, il n'est pas bien parce qu'on vient de tuer son fils ou sa fille, il est en persécution. Mais il y a quelque chose que Satan n'arrive pas à retirer, c'est sa joie dans le Seigneur. Même si, juste sur un temps, ça peut être parfois difficile pour nous. J'aime beaucoup décrire les liens qui unissent les versets des chapitres des évangiles. Et aujourd'hui, le lien qui unit la fin du chapitre 10 de l'évangile de Luc avec le chapitre 11 m'intéresse au plus haut point. Et on va en parler. Vous savez que les anciens manuscrits qui ont permis d'avoir notre Bible en français, ces anciens manuscrits étaient en grec, en hébreu, en araméen, en majuscules, sans ponctuation, le codex Bezae Cantabrigiensis et puis d'autres nous ont permis d'avoir le Nouveau Testament. Mais quand vous lisez ça, oula, les mots sont tous collés les uns aux autres. Et puis, c'est vrai que si vous faisiez une lecture en français d'un texte français, puisque vous êtes français, vous voyez que les mots, vous savez où il faut couper les mots. Hein, je sais pas moi, la biche est dans le pré, la biche est dans le pré, tout est collé, ça va. On voit que c'est là, biche, et dans le pré. Nos problèmes. Vous demandez ça à quelqu'un qui ne connaît pas le français, il va dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et voilà. Donc, à l'époque, on avait des textes qui étaient comme ça. Les traducteurs ont fait d'énormes progrès. Ils en font toujours. Depuis l'époque où on lisait en grec, majuscule, sans ponctuation. Certains ont même rajouté des numéros de chapitres. Hein? Par exemple, au XIIIe siècle, pendant ce temps-là, personne n'a osé toucher au texte sacré. Et à un moment donné, au XIIIe siècle, il y en a un qui... Et il s'appelait Étienne Langton. Il était évêque de Canterbury. Et il décide de diviser la Bible en chapitres. Et ceci permettrait d'en lire le récit à la fois, un récit à la fois, quoi. Hein? Et on dit qu'Étienne Langton aurait découpé la Bible en chapitres lors d'un voyage vers Paris, à dos de mulet. Et cette anecdote permet de peut-être de comprendre que parfois les chapitres se découpent, hein, découpent le texte biblique, mais pas au bon endroit, quoi. Hein? Et encore un Anglais, hein. Et au XVIe siècle, encore un Étienne ici, c'est Robert Étienne, décidément aujourd'hui vous aurez pas mal d'Étienne, un imprimeur français qui proposera pour la première fois une édition de la Bible avec des numéros de versets dans la marge du texte, au XVIe siècle. 13 siècles où il fallait lire la Bible un peu difficile, hein, et puis 3 siècles plus tard, il y a les versets. Donc avant, on n'avait pas. Vous voyez ? Dans la marge du texte, hein, les versets, ils étaient dans la marge du texte. Hein, ils n'étaient même pas dans le texte comme nous l'avons, n'est-ce pas ? Avant, donc, on lisait la Bible en continu, en hébreu, en araméen, et pour nous, en grec, soit en latin, sans ponctuation, enfin si dans le latin il a commencé à y avoir des ponctuations, etc., sans majuscules et sans minuscules, misère. Et à partir du XVIe siècle, tout le monde va adopter, tout le monde va adopter cette séparation en chapitres et versier, même pour les Bibles hébraïques, tellement c'est pratique. Hein, pauvre, on s'y retrouve très vite, quoi. Autrement, vous voyez comment c'était difficile, il n'y avait pas d'ordinateur, on ne pouvait pas taper sur un truc pour avoir. Bon. Seulement, voilà, l'avantage de pouvoir s'y retrouver rapidement nous a en même temps fait perdre la notion du lien entre tous les mots. Ouais. Par exemple, je vais le faire quand même, oui, je pense. Hypotasso menoi alleloi sen phobo Christou, aigunaikes tois idioi santrasindos tu curio. Simple, hein. Vous voyez, ça, je vous donne l'ambiance, quoi. Hein. C'est ce qu'a dit Pascal tout à l'heure. Soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Christ et les femmes envers leur mari comme au Seigneur. Et donc, tout le truc, il va ensemble. Et on s'aperçoit dans ce que tu as dit, Pascal, c'est que on est dans entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes cantiques spirituels, etc. Et soumettez-vous les uns aux autres et les femmes comme la même chose pour leur mari et les maris pour leurs femmes. Vous voyez, tout le système est mis ensemble et il n'y a plus de chapitre. Tout est écrit ensemble dans la continuité et vous sentez bien qu'il y a un grand lien entre soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ, les hommes aux femmes et les femmes aux hommes, et les femmes envers leur mari comme au Seigneur. Donc on a l'impression qu'il y a des choses qui sont contradictoires, mais en fait dans tout le système on s'aperçoit que c'est dans le désir de louer le Seigneur, de s'entretenir par des cantiques, par des hymnes, par des prières, vous voyez, voilà. Donc nous, si on lit ce système, il y en a qui ont dit, ben, regardez, les femmes doivent être soumises à leur mari, oui, puis les maris doivent aimer leurs femmes. Et comme si c'était différent du chapitre précédent. Voilà. Luc chapitre 10, fin du chapitre 10, et chapitre 11, c'est la même chose. Il y a des choses, on ne voit pas le lien, mais il y en a un. Je voudrais donc vous parler de cette fin du chapitre 10 et du début du chapitre 11, de l'évangile de Luc. Pour que nous percevions, je l'espère, les liens significatifs entre une femme qui se fâche, un homme qui voudrait savoir bien prier, un ami qui a besoin d'aide, des enfants qui réclament des bonbons, un exorciste, une maison spirituelle et la fierté d'être une mère. Il y a un lien. Vous le voyez, vous, Louis ? Bon, bref. Y a-t-il un lien entre tout ça ? Je pense qu'on a trop l'habitude de lire notre Bible de manière religieuse. Pardonnez-moi, mais je vais utiliser une méthode qui risque de vous choquer. J'espère pas, mais je vais peut-être vous choquer, je ne sais pas. De manière, on lit la Bible de manière liturgique. Ça m'arrive de le faire. Enfin, voilà. Je voudrais la rendre vivante. Vous aussi, vous voulez la rendre vivante. Hein, je ne suis pas le seul. La rendre vivante, cette parole. Essayons donc, mes frères et sœurs, essayez donc de résister à votre envie d'être scandalisé par ma façon de faire. Je commence. J'ai le trac. José n'est pas là. Non, José n'est pas là. Oh, j'aurais bien voulu que José soit là. Bon. Connaissez-vous la tribu des Savapas ? Vous connaissez ou vous ne connaissez pas la tribu des Savapa? Les Savapa sont des êtres vivants qui sont merveilleux à regarder. Ils sont très, très beaux. Il y en a d'autres, il y en a qui ont des cheveux bouclés, avec des yeux bleus. D'autres, des cheveux crépus, avec des yeux noirs. D'autres qui ont des cheveux tellement blonds qu'ils sont presque blancs. Des costauds, des tout petits, des très grands. Certains ont la peau fripée, regardez. D'autres, la peau très douce. Bref, c'est un plaisir que de simplement les regarder. Les Savapas sont mâles et femelles. C'est comme ça. Mais ils ont un problème. Un gros problème. Quand on leur demande « ça va ?», ils répondent toujours « ça va très bien, ça va très bien ». Mais en fait, ça ne va pas bien du tout. La tribu des Savapas habite sur une petite boule. Une toute petite boule. Certains Savapas disent qu'ils sont un peu à l'étroit sur cette boule, mais je crois qu'ils exagèrent un peu. C'est une petite boule située sur un bras extérieur de la Voie lactée, juste à côté d'une petite étoile, sans grande importance. Cette petite boule tourne autour de l'étoile. Cette petite boule est de couleur bleue. On l'a appelée la planète bleue. Bleu turquoise ? Oh non, pas bleu turquoise, non. Pas bleu turquoise. Bleu marine ? Oh non, pas bleu marine. Non, non. Bleu roi, certainement pas bleu roi. Ben alors, quel bleu? Quel bleu alors? Ben c'est bleu ciel. Vous savez pourquoi? Parce que ce serait tellement bien s'il y avait le ciel sur la terre. Seulement voilà, c'est pas vraiment le ciel sur cette petite boule. Et là maintenant, je vais enfin vous parler, vous raconter l'histoire d'une petite Savapa. Une petite Savapa. Vous pouvez lire avec moi, hein. Ça se trouve dans Luc au chapitre 10 à la fin. Elle est dans sa cuisine. Il y avait une cocotte minute sur la gazinière. Enfin, c'était peut-être pas encore des cocottes minutes à l'époque, mais c'est une cocotte minute. Et il y a une deuxième cocotte minute, c'est dans sa tête. Et vous savez ce qu'elle se dit dans sa tête? Devinez. Elle dit, ça va pas, bravo, je vois que tu me suis. C'est bien. Et puis soudain, la cocotte minute explose. Pas celle sur la gazinière, hein? Non, non, celle dans sa tête. Elle explose. Elle sort de la cuisine avec sa louche. Elle marche résolument vers le conférencier. Elle se permet de l'interrompre en pleine conférence, en plein milieu. Et elle lui dit, conférencier, ça va pas. Ça te fait rien que ma petite sœur me laisse toute seule à la cuisine et tu pourrais quand même lui dire que sa place est au fourneau et pas dans la conférence. En effet, elle avait invité 13 personnes chez elle. Ce qui fait qu'avec son frère et sa petite sœur, ils étaient au moins 16. Ça va pas. Ça va pas. C'est moi qui me tape toute seule la cuisine et pendant ce temps-là, les 14 autres, ils écoutent la conférence. Et le conférencier lui répondit alors, « Ma chère petite Savapa, ma chère petite Savapa, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu vois ta petite sœur Savapa. Elle a compris quelque chose que tu n'as pas compris. Elle a choisi la bonne part, la chose qu'il fallait faire, et ça, on ne pourra pas lui enlever. Alors, vous qui m'écoutez, avec indulgence, vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Le conférencier dit, une seule chose est nécessaire, mais il ne dit pas laquelle. Il ne dit pas, quelle est cette chose? Ça ne va pas. On ne sait pas quelle est cette chose si nécessaire. Et le chapitre prend fin. Sans explication. Alors en effet, ça ne va pas. Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire que la tribu des Savapas a plusieurs langages. Il y a des endroits très reculés, on les appelle les... Je vais le dire, oui. Shanvana. D'autres endroits, on les appelle les Shkumun. D'ailleurs, on les appelle Not Great. Mais en fait, ce sont tous les mêmes. Ce sont des Sarapas, ils font partie de la même tribu. Nous voilà bien avancés de savoir que le conférencier a donné raison à la petite sœur Sarapa. Pourquoi ? La grande sœur Sarapa, elle avait quand même de bonnes raisons. Tous ces hommes plantaient à rien faire, et sa petite sœur aussi. Elle pensait que si sa petite sœur était à côté d'elle, ça irait mieux dans sa tête. C'est ce que celle se disait, c'est la norme, c'est comme ça que ma petite sœur aurait dû faire. Mais c'est faux. Ce n'est pas comme cela que ça irait mieux. Ce n'est pas parce que cette sœur, ça ne va pas, grande sœur, elle aurait demandé à sa petite sœur de venir pour l'aider, que ça aurait été mieux dans sa tête. Et le conférencier de dire qu'en plus, c'est la petite sœur qui a raison. J'ai également oublié de vous dire quelque chose. Le conférencier, lui, ne fait pas partie de la tribu des Sarapas. Lui, il fait partie de la tribu des Sarapas. Oui. Il ressemble comme deux gouttes d'eau, ça ne vaut pas. Mais il fait partie de la tribu des Sarapas. La tribu des Sarapas n'est pas nombreuse. Elle est d'ailleurs, à cette époque-là, réduite à sa plus simple expression. En fait, la tribu des Sarapas, elle est composée d'une seule personne. Pas beaucoup, hein. Le conférencier lui-même. C'est le seul Sarapas de l'époque. Bon, j'ai fini de vous parler du chapitre 10. Le chapitre prend fin. Voilà. Sans explication. Et on passe apparemment à un autre sujet. Apparemment. Au chapitre 11. Le voici. Un disciple, ça va pas, s'aperçoit que dans son cœur, ça ne va pas. Il pense qu'en priant bien, en faisant de belles prières, ça ira mieux. Il voit le conférencier prier. Et il sent, en voyant le conférencier prier, que le conférencier, il prie bien. Il prie très bien même. Et il s'imagine qu'en apprenant à prier, ça ira mieux. Il se dit, c'est cela qui me manque. C'est la prière, la façon de prier du conférencier que je devrais avoir. Si j'avais ça, je ne serais plus un ça va pas, je serais un ça va bien. Il se trompe. Il demande donc au conférencier, peux-tu nous enseigner à bien prier ? Il pense qu'en priant bien, il retirera de son cœur vide le vide qu'il ressent. Malheureusement, ce n'est pas en priant bien que ça ira mieux. Il restera un ça va pas même s'il fait de belles prières. Et pourtant, le conférencier va lui répondre gentiment et va lui dire « Comment il faut prier ?» Je vais résumer un peu la prière très rapidement en ces mots. Si vous voulez, non pas un résumé, mais il faudra aller à l'étude biblique avec Paul mardi. Le conférencier dit « ça va pas ». Le conférencier dit « ça va pas » d'une certaine manière. Sur cette petite boule, Dieu n'est pas considéré comme un père. Son règne, personne ne s'en occupe. Personne ne cherche vraiment à être nourri par lui. Sa volonté n'intéresse personne. Ça ne va pas parce que personne ne s'est vraiment pardonné. Et sur cette petite boule, il y a beaucoup de tentations, beaucoup de fausses routes. Vous voyez, en gros, le conférencier donne la réponse au disciple « ça va pas ». Mais il tourne la prière de manière, lui, positive, pas comme je l'ai dit. Le conférencier, il est tourné vers l'espoir. Il explique quand même que si ça ne va pas dans ton cœur, c'est pas par une belle prière que tu t'en sortiras. Mais le conférencier, dans cette deuxième situation, n'a toujours pas donné la réponse à la question qui taraude le cœur des « ça va pas ». Quelle est cette seule chose nécessaire ? Ça commence à transparaître et c'est encore flou. Alors le conférencier va leur expliquer que si ça ne va pas, il faut le dire. Il faut le dire. Si ça ne va pas, si tu ne vas pas, bien, il faut que tu le dises. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit, les ça ne va pas, ils ont un problème, un gros problème. Quand on leur dit ça va, ils disent toujours que ça va bien. Et en fait, voilà. Il faut le dire. Si tu as un invité de dernière minute, les magasins sont fermés et que tu es désemparé parce que tu n'as rien à lui donner à la maison. Tu vas te dépanner auprès d'un ami. Quand ça ne va pas, dans la tribu des ça va pas, on devrait avoir l'honnêteté de le dire. Parce que l'invité, lui, si on ne lui donne pas à manger, ce sera pire. Il faudra bien aller voir quelqu'un et l'importuner pour un petit dépannage de nourriture. Ça va pas. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5 et au verset 3, le conférencier dit même « Heureux ceux qui savent qu'ils ne sont pas bien, car ils sont sur le chemin du royaume des cieux. » Nous comprenons qu'il nous faut être honnêtes avec nous-mêmes. Si déjà on se ment à soi-même en disant « ça va bien », alors que ça ne va pas, comment voulez-vous que le conférencier puisse vous aider à en sortir ? Si ça ne va pas dans ta vie, il te faut oser en parler. Il te faut demander. Même dans les incertitudes des raisons profondes de ton « ça va pas », alors on pourra te donner. Si tu ne dis rien, alors on ne te donnera rien. Vous lisez dans chapitre 11 de l'évangile de Luc, il lui dit ça. Celui qui demande reçoit. Ben voilà, sous-entendu, tu ne demandes pas, tu ne reçois pas, quoi. Le conférencier continue à parler de ce mal-être intérieur en nous parlant des petits-enfants. Et il dit, imaginez un petit « ça va pas » qui viendrait dire à son papa. « Papa, ça va pas. J'éprouve un problème existentiel en ma personne lié à une prise de conscience de ma destinée. Pourrais-tu m'éclairer sur les atermoiements de mon âme ?» Ah, le papa, il va regarder, il va dire, mais il ira loin, ce petit. Il ira loin dans la vie. Mais c'est pas ça qu'il dit. C'est pas ça qu'il dit. Ce petit, ça va pas. C'est pas ça qu'il va faire. Déjà, à son jeune âge, au lieu de dire sincèrement ce qu'il ressent, préférera déjà trouver une solution à son problème. Comme la petite dame cuisinière, ça va pas tout à l'heure, elle avait trouvé une solution à son problème, tout comme le disciple, ça va pas, qui pensait qu'en priant, ça irait mieux. Mais ils ont déjà tout un mécanisme pour construire des réponses à leurs questions qui est difficile. Et ça va pas, ils sont comme ça. Alors qu'est-ce qu'il fait, le petit ça va pas, avec son problème existentiel dont il n'a même pas conscience? Il dit, papa, ça va pas, donne-moi un bonbon. Voilà ce qu'il dit, donne-moi un bonbon. Il va aller avec son bonbon dans un coin et il va être content d'avoir son bonbon, mais en fait, le problème ne sera pas résolu. Même les enfants sont comme ça, comme des adultes. Il pense trouver son problème lui-même, trouver une solution à son problème lui-même, le petit. Il s'assume déjà. Il croit qu'il a raison de supprimer son « ça va pas » par ses propres moyens. Il est tout petit, mais dans ce domaine, il est déjà comme les adultes. Le conférencier termine son discours au verset 13 en disant « Vous qui êtes de la tribu des « ça va pas », ne me dites pas que vous avez oublié que Dieu peut vous libérer de votre problème profond. Pour que vous deveniez des ça va bien. Ne me dites pas, vous ne le savez pas. Et là, enfin, le conférencier nous donne la raison. Il nous donne la solution. Si ça ne va pas en toi, mais que tu le reconnaisses, et tu vas le reconnaître en le demandant, si tu le demandes, si tu le reconnais, alors Dieu, le Père Céleste, viendra habiter en toi. Et tu passeras de la tribu des ça va pas automatiquement à la tribu des ça va bien. Sans effort, ça ne dépend pas de toi. C'est uniquement si tu acceptes qu'il vienne habiter en toi. C'est ce qu'il nous est dit dans cette fin de verset 13 du chapitre 11 de Luc. Oui, c'est très bien ce que tu dis, mais il existe des gens qui n'ont même plus le pouvoir de faire ce choix. Même plus. Ils n'ont même plus le pouvoir de demander à sortir de leur « ça va pas ». Une force supérieure les a dominés. Ils ne peuvent plus envisager leur vie dans la liberté, parce qu'un homme fort a pris le contrôle de leur personne. Ce sont des « ça va pas » esclaves. Dans ce cas-là, il y a même un espoir. Le conférencier chasse un démon qui avait pris possession d'un petit « ça va pas ». Même dans ce cas-là, il n'y a pas de raison de désespérer. Au lieu de se réjouir de la libération, d'autres, au lieu de prendre le chemin de la reconnaissance, voient le conférencier libérer un homme de son esclavage. On en a parlé tout à l'heure. Il y a des gens qui vont utiliser ce que dit le conférencier, l'utiliser pour le tuer. Et là, c'est la même chose. Au lieu de se réjouir de la libération d'un ça va pas, certains vont argumenter. La reconnaissance, c'est merci pour ce que tu as fait. Mais aussi la reconnaissance, c'est je constate, je m'aperçois que c'est toi, conférencier, qui es le sauveur. Hein, on en a parlé, Michael en a parlé tout à l'heure. Au lieu de se réjouir de la libération, certains ça va pas préfèrent donc rester dans la tribu des ça va pas, alors qu'ils ont perçu qu'ils avaient en face d'eux celui qui pouvait nettoyer leur maison intérieure. Et au verset 21, il nous est dit que quand un homme fort se croit tellement fort qu'il pense être éternellement en sûreté, il est entièrement anéanti quand quelqu'un d'autre vient le dompter. Et c'est le cas de Satan. Il croit qu'il est le plus fort, mais quelqu'un est venu, le conférencier, et Satan n'est plus le plus fort. Tous les Savapas, tous ceux de la tribu des Savapas, tous, sans exception aucune, peuvent directement aller dans la tribu de ça va bien à une seule condition, reconnaître que ça va pas et qu'ils ont besoin du conférencier pour s'en sortir, qu'ils ont besoin que Dieu vienne habiter en eux. Voilà. Et le conférencier d'insister, si toi, qui es un petit ça va pas, tu as été libéré de Satan, ou si tu as été libéré de tes fausses conceptions pour faire entrer Dieu sur le pas de ta porte, et si tu dis, Dieu, tu m'as permis de nettoyer un petit peu ma maison intérieure. J'ai bien apprécié ce que tu as fait, mais je préfère que tu restes dehors. Les choses ne vont pas rester ainsi. Soit on demeure dans la tribu et ça va pas, soit on est dans la tribu et ça va bien. Il n'y a que deux choix possibles. Soit Dieu n'est pas en nous, soit Dieu demeure en nous. Ici, dans ces versets 24 à 36 du chapitre 11 de l'évangile de Luc, le conférencier parle d'une maison. Il souhaite que cette maison soit remplie et non déserte. Cette maison ne peut être remplie que de Dieu. Et si ce n'est pas Dieu qui la remplit, alors c'est terrible. Ça donne des monstres. Des monstres. Lisez 24 à 26, vous verrez. C'est ça. Et là, une dame émerveillée lui dit « Oh, j'aurais voulu être ta maman. Conférencier, j'aurais voulu être ta maman. » Si j'avais été ta maman, je serais fière. Je crois bien que je ne serais pas une ça va pas si j'étais ta maman. Mais je ne suis pas ta maman. Et le conférencier de lui répondre, il n'y a que des relations spirituelles dans la tribu des ça va bien. Pas de place pour des privilèges familiaux. Nous sommes tous de la même famille dans la tribu des ça va bien. Pour être dans le royaume de Dieu, il faut être habité par Dieu. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, verset 5, le conférencier dit « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume des dieux. Hein » Je le traduis en langage « ça va pas » s'il vous plaît. « Si un ça va pas renonce à trouver une solution lui-même, s'il reconnaît qu'il doit changer de nature, que ça va pas, alors c'est le symbole de l'eau. Il se plonge dans l'eau, il ne veut plus être comme ça. Et qu'il comprenne que le grand manque de sa vie, c'est d'être loin de Dieu, qu'il demande que Dieu vienne habiter en lui, qu'il le demande. Eh bien, Dieu vient en lui, sans tambour ni trompette. L'Esprit, Dieu, vient habiter en lui. Celui qui est né d'eau et d'esprit. Et il est donc dans le royaume de Dieu. Il n'a rien à payer. Il suffit juste de reconnaître sa situation. Je suis un ça va pas et je veux devenir comme toi, conférencier, un ça va bien. Dans Jean, chapitre 3, verset 20, quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient révélées, dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Alors on a l'impression que toutes les œuvres que nous allons faire sont faites en Dieu et qu'elles sont donc pures. Mais non, je crois que ce qui est dit ici, c'est que l'enfant, la personne qui veut vraiment être sincère avec Dieu, va lui ouvrir la porte, même si la maison est sale, parce qu'elle sait qu'il n'y a pas d'autre solution. Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu, même si ses œuvres ne sont pas top. Je pense à l'apôtre Paul, par exemple. Il pensait faire les choses de Dieu, et alors il le fait. Et là, Dieu tape à sa porte, et il ouvre la porte. Et alors, il reste 3 jours sans rien, parce que je suppose qu'il a vu que, par la lumière de Dieu, que sa maison n'était pas très propre. C'est notre constat à nous, n'est-ce pas? Nous qui sommes dans la tribu des « ça va bien ». Alors quand ça ne va pas, il faut le dire et ne pas chercher à trouver la solution tout seul ou toute seule. Tout seul pour les « ça va pas mal », toute seule pour les « ça va pas femelle hein ». Dans Luc chapitre 11 verset 13, Dieu ne refusera, il nous est dit, Dieu ne refusera jamais de venir habiter dans la maison intérieure de celui qui le lui demande. Il n'est pas question de recevoir le Saint-Esprit parce qu'il est dit ici hein, dans le verset 13, vous avez vu, que Dieu donne le Saint-Esprit à celui qui le lui demande. Il parle de gens qui sont « ça va pas », qui ne sont pas dans le monde des « ça va bien ». Et il n'est pas question ici de recevoir le Saint-Esprit comme si on recevait une prime ou un supplément. C'est non, ce qui vous manque, c'est Dieu en vous. Hein? C'est ce qui est dit ici au verset 13. Dans Éphésiens chapitre 2, au verset 1, il est dit « vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » C'est la tribu, la fameuse tribu, dans laquelle vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et Jésus a dit aussi, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. » On comprend qu'on est dans ce système des « ça va pas », qui comprennent confusément que ça va pas bien et qui veulent adhérer ou coller à celui qui va leur donner la vie. Plus loin, au verset 6 de Éphésiens, hein, chapitre 2, il est dit, il nous a libérés, il nous a fait revivre ensemble. Et nous savons pourquoi. Parce qu'il a payé de sa vie. Il a payé un grand prix, Matthieu 11, 28. Et encore le verset 22 d'Éphésiens 2. En Christ, nous sommes construits. En Christ, nous sommes construit comme un édifice pour être la maison de Dieu en esprit. Pour tous ceux de la tribu des Savapas qui comprennent qu'ils peuvent changer de tribu, l'avenir est merveilleux. Même dans les moments de guerre, les moments de souffrance, il y a grande différence entre les Savapas et les Savabiens. Bon, je ne fais que répéter ce qui a été dit par nos frères et sœurs avant. Quelle est cette différence? Dieu est soit absent, ça, ce sont les « ça va pas ». Soit présent dans la personne. Ça, ce sont les « ça va bien ». Et alors, le monde n'a pas la même lumière, la même géométrie, la même beauté. Tout prend une autre signification. Et même si la tribu des « ça va bien » est éprouvée par la maladie, par les soucis de la vie, par toutes sortes de violences, comme il y a Dieu dans leur cœur, les « ça va bien » savent que même s'ils meurent, et ça a été dit tout à l'heure, ce qui semble être la plus grande catastrophe, n'est-ce pas? Même s'ils meurent, tout ira bien. En conclusion donc, nous voyons que le lien qui unit tous les écrits de Luc 10 et 11, c'est cette recherche intérieure, cette espèce de démentation de gens qui viennent vous voir, qui vous pose des questions. Ça vous est arrivé, justement. Hein? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? C'est quoi ton but dans la vie? Et alors, vous avez du mal à lui dire, parce que si vous dites, moi, le but dans ma vie, c'est connaître Christ et la puissance de la résurrection, il va vous regarder en disant, mais il est fou, ce type-là. Hein? Ça ne va pas. Vous êtes obligé de lui dire, mais sans lui dire, parce que vous aimeriez bien lui dire, mais vous ne pouvez pas. Hein? Mais il y a un collage, une aimantation. Il y a des « ça ne va pas » qui vous côtoient. Et qui sont là en train de dire, mais ils ont des choses que je n'ai pas. C'est ce qui s'est passé avec la cuisinière, avec le disciple, enfin bref, vous voyez. Hein? En conclusion donc, nous voyons que le lien qui unit tous ces écrits de Luc 10 et 11, c'est cette recherche intérieure de ce qui ne va pas, qui amène les gens de tous âges, de tous horizons, tout autour de Jésus, car ils sentent confusément que c'est là qu'ils trouveront la solution à leur problème. Marie, elle est au pied de Jésus parce qu'elle cherche la raison de sa vie. Le disciple qui cherche à prier comme il faut, il se rend compte qu'il lui manque quelque chose. Celui qui reçoit un invité, il se rend compte qu'il a besoin d'aide. Les enfants qui demandent des bonbons, ils recherchent confusément déjà la raison de leur présence sur la terre. Un possédé a besoin d'une intervention toute particulière de Dieu pour retrouver la vraie vie. Et c'est possible, c'est possible. Quelqu'un qui apprécie Dieu doit aller plus loin que simplement s'instruire sur Dieu. Sinon, il est comme une maison, vide, propre. Sinon, sa maison intérieure va se remplir d'autre chose. Être la mère du conférencier, c'est pas mal, hein? Ça donne un certain prestige. Ça ne peut pas donner de solution pour se sentir mieux, même en étant la maman du conférencier. C'est là, il faut que Dieu habite en toi, autrement ta vie n'a pas de sens. Et ça, nous le savons. Hein? Des foules suivaient Jésus dans le désert. Mais on se dit, mais comment se fait-il que tous ces gens suivaient un rabbi qui n'était pas bien vu? On se rend compte qu'il y a quelque chose. C'est bien ça, cette espèce d'aimantation automatique sans que les gens sachent vraiment quoi. Ils s'accrochent à vous. Ils s'accrochent à moi. Vous avez déjà vu ça, certainement. Des foules suivaient Jésus dans les déserts. Elles ne savaient pas pourquoi, mais elles ressentaient que uniquement vers lui, elles trouveraient une solution à leur « ça va pas » pour devenir des « ça va bien ». Dans Matthieu 9, verset 36, il y a une émotion très forte de Jésus qui doit aussi certainement nous tarauder. C'est celle-ci. Matthieu 9, 36. Jésus, le conférencier, voyait la foule et il était ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Hein? Mais ces brebis, elles ont trouvé un berger, alors elles viennent tout près, mais elles sont quand même désemparées. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alors, chers amis, mes derniers mots avant la prière seront « Comment allez-vous? Est-ce que ça va ?» Nous allons prier. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous voulons te rendre grâce de ce que, confusément ou de diverses manières, nous avons été attirés par toi. Nous voulons te remercier de ce que cette attirance ne s'est pas simplement arrêtée à une attirance, mais que nous avons ouvert la porte de notre cœur pour que tu y rentres. Je confesse que parfois je suis désobéissant, que je ne te suis pas comme il faudrait, que à la lumière de ta parole, à la lumière de ta présence, il y a beaucoup plus d'araignées qui devraient disparaître dans ma maison intérieure. Il y a beaucoup de choses qui devraient aller plus vite. Mais toi, Seigneur, tu es le Dieu de compassion. Tu es celui qui m'aime, qui nous aime chacun. Et nous voulons confesser, Seigneur, que nous sommes dans la tribu de ceux qui vont bien, parce que même dans les souffrances, tu es dans notre cœur et tu nous as donné une espérance que personne ne peut ôter. Seigneur, nous te supplions, fais de nous des ouvriers dans ta moisson, pour que dans ces temps difficiles qui risquent de venir un jour, nous puissions vraiment en attirer beaucoup à toi. Tu as dit, et quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Seigneur, c'est mon vœu le plus cher, c'est notre vœu le plus cher. Au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père, nous te louons. Amen.